de la longueur d'onde.
C'est le quart de la longueur d'onde.
Le quart de longueur d'onde.
Alors, la longueur d'onde de 560 nanomètres, en gros, hein, dans le visible, c'est un quart de ça.
Donc, vous voyez un petit peu ce qu'il faut mettre en œuvre comme moyen pour réussir à avoir des états de surface comme celui-ci. Et dans ce domaine, les Français sont très bien placés, sont même carrément parmi les leaders, notamment avec une entreprise qui s'appelle Loreos, en région parisienne, à laquelle, y compris les Américains, confient le polissage de leurs miroirs.
Parce qu'ils ont poli le miroir tout seul de Hubble et...
Aucun problème.
Non, ce n'était pas le seul problème.
Est-ce qu'on peut avoir une idée à peu près du poids d'un miroir de 8 mètres?
J'avais le chiffre, mais j'avouerai que je ne l'ai pas noté. Par contre, j'ai une autre donnée qui est au moins aussi intéressante, c'est l'épaisseur des miroirs du VLT. Donc le VLT, c'est le Very Large Telescope, le très grand télescope qui est installé par l'Observatoire européen austral au Chili. Le diamètre est de 8,20 m et l'épaisseur de 17 cm seulement. Mais c'est une technologie récente. Quand on a commencé à fabriquer des miroirs, on va dire que le premier grand miroir digne de ce nom fabriqué a équipé le télescope du Mont Palomar. C'était un télescope de 5 mètres de diamètre. Et l'épaisseur, ça avoisinait 1 mètre ou quelque chose comme ça. Pour
éviter les déformations, quoi. Pour que le
miroir ne se déforme pas sous son propre poids. On a ensuite tâché d'alléger un petit peu les miroirs tout en gardant les mêmes dimensions. Donc on a creusé, au moment du moulage, on a ménagé des alvéoles dans la matière, dans le verre qui constitue le miroir, de façon à conserver des miroirs de diamètre à peu près identique, mais quand même plus léger à manipuler.
Un peu le système des nids d'abeilles, en fait.
Les alvéoles sont en forme de nid d'abeilles dans la face non utile du miroir, on va dire.
Voilà.
Il y a eu d'autres idées pour tâcher de monter des miroirs un petit peu plus grands. Alors ces idées, elles ont été mises en œuvre sur quelques télescopes, dont notamment les télescopes Keck à Hawaï qui font 10 mètres de diamètre. Là, on a construit ce qu'on appelle des miroirs multiples. Au lieu d'avoir un miroir d'un seul tenant, on a construit plusieurs petits miroirs hexagonaux qu'on a assemblés les uns à côté des autres. Ils sont tous montés sur des vérins qui vont compenser leur profil pour donner au final un profil parabolique ou hyperbolique au miroir tel qu'il serait s'il avait été en une seule pièce. Et puis la dernière technologie mise en œuvre, c'est celle qui a été utilisée notamment pour les miroirs du VLT, puis qui est utilisée maintenant de façon quasi universelle sur les grands observatoires. C'est ce qu'on appelle les miroirs monolithiques, donc en un seul bloc, en une seule pièce, mince. Alors pourquoi un monolithique mince? Eh bien, quand on a affaire à un miroir comme ça, simplement le fait de pointer le télescope soit vers le zénith, ou bien vers l'horizon, va provoquer des déformations du miroir. Imaginez quand le miroir est pointé juste au-dessus de nos têtes vers le zénith, le miroir va poser bien à plat, il va être bien dans son assise, bien dans son profil, on va commencer à faire basculer le télescope, on va le descendre, et le miroir, comme il est très mince, il va en quelque sorte se refermer sur lui-même.
C'est un peu comme si on avait une tarte dans un plat à tarte et qu'on essayait de le mettre à la verticale.
Une crêpe, voilà. Et mettre une crêpe debout, voilà. J'en connais.
Donne pas de nom.
Et donc pour compenser ça, on a eu l'idée de monter ces gros miroirs sur toute une batterie de vérins qui vont compenser en permanence. Donc des vérins, il y en a sous le miroir, il y en a sur la tranche du miroir, et l'ensemble de tous ces vérins vont compenser la déformation du miroir due au mouvement du télescope. Et ils ne vont pas d'ailleurs compenser que ces mouvements-là, il y en aura d'autres.
C'est ce qu'on appelle l'optique adaptative, c'est ça ?
C'est une partie de l'optique adaptative. En optique adaptative, j'y reviendrai un tout petit peu tout à l'heure, on va compenser les miroirs de basse les déformations de basse fréquence, en déformant le gros miroir, mais sorti de ça, vous savez que sur un télescope, il n'y a pas un miroir, il y a un train de miroirs, on va dire. Sur un VLT, avec certaines formules optiques, on peut atteindre jusqu'à 8 ou 9 miroirs, quelque chose comme ça. Et les miroirs secondaires, tertiaires, etc., sont beaucoup plus petits, montés dans des systèmes qui vont permettre de compenser les turbulences atmosphériques, mais de façon extrêmement rapide. Et là, on ne fait plus appel à des vérins classiques, mais c'est d'autres systèmes électroniques qui vont permettre ça.
Il faut savoir que c'est aussi possible que depuis que l'avènement de l'informatique facile.
Oui, bien sûr.
Parce que les vérins, ils sont commandés par informatique.
Les vérins sont pilotés par une informatique de course, on va dire, puisqu'ils doivent réagir en temps réel par rapport aux déformations dues au déplacement de l'atmosphère terrestre.
Turbulence, quoi.
Turbulence.
Ah oui, il y a l'optique adaptative qui est là pour redonner sa forme au grand miroir. Il y a celle qui consiste à compenser en quelque sorte les déformations de l'air.
Voilà. Alors ça, c'est une des limites de l'observation terrestre. Donc les turbulences atmosphériques, c'est pas la seule limite. L'autre limite, c'est l'opacité de l'atmosphère à certaines longueurs d'onde. Quand on est à la surface du sol, on peut très bien observer tout ce qui se passe dans le visible. Hein. C'est le visible, c'est tout ce qu'on voit tous les jours avec nos yeux. Hein. Ça va du bleu au rouge, en passant par le vert et le jaune, un petit peu dans l'infrarouge. Mais dès qu'on s'éloigne de ces fréquences, de ces longueurs d'onde là, l'atmosphère devient opaque. Et
heureusement, notamment pour les ultraviolets.
Heureusement pour les ultraviolets et pour le reste,
et
tous les rayons nocifs. Donc on verra que pour réussir à faire des observations dans ces longueurs d'onde, on va utiliser d'autres moyens. Bien, nos grands télescopes sont mis en place. On va tâcher de collecter des images avec, en ayant mis en œuvre toutes les procédures de correction d'image. Il va falloir maintenant faire un petit peu le tri dans les images qu'on va recevoir. Et puis, bon, voilà, plusieurs moyens également. Le moyen le plus simple, c'est un petit peu ce qu'on fait, même quand on est amateur et qu'on fait de la prise de vue astro. On fait nos prises de vue, on les regarde. Celles qui sont pas bonnes, on les met à la poubelle. Ça, c'est la première méthode pour améliorer les images. On ne va conserver que les bonnes. Ensuite,
c'est une excellente méthode et c'est souvent utilisé, ça, j'ai l'impression.
Oui, tout à fait. Ensuite, on va pouvoir utiliser l'ordinateur qui va corriger certains défauts connus lors des prises de vue. Et puis enfin, donc, ces optiques adaptatives qui vont permettre de s'affranchir de la turbulence atmosphérique en compensant exactement et en temps réel les déformations d'image dues à la turbulence de l'air.
Mais paradoxalement, en fait, la première partie de l'optique adaptative, c'est d'avoir un miroir qui reste uniforme partout, quel que soit s'il est mis au zénith ou à la verticale, ou à l'horizontale. Et la deuxième partie, en fait, c'est le déformer.
C'est le déformer, mais ce n'est pas le miroir principal qu'on déforme. C'est un petit miroir ou un train de miroir qu'on va mettre au foyer du télescope et qui, eux, vont être actionnés par des petits piezo, donc des petits dispositifs électroniques qui vont réagir dans des durées dont l'ordre de grandeur typique est la milliseconde. Comment ça se passe ? On va pointer, le télescope va pointer dans le champ ou à proximité du champ une étoile connue. On va analyser la lumière qui vient de cette étoile, qui va forcément être déformée par les turbulences atmosphériques, et l'ordinateur, tenant compte de ces déformations, va envoyer des ordres à l'ensemble des petits piezo qui vont commander la déformation des miroirs secondaires pour, au final, permettre de recevoir une image nette.
Juste pour compléter les turbulences atmosphériques, hein, pour ceux qui font du barbecue, vous avez juste à mettre votre tête au même niveau que la hauteur du barbecue, vous verrez bien la chaleur monter. Et en fait, si vous voulez observer une étoile, vous avez le même problème, c'est-à-dire que l'atmosphère, il bouge comme ça. C'est aussi ce qu'on appelle la turbulence.
On vous parlera un jour du test de Foucault. Lorsqu'on teste un miroir, lorsqu'on le regarde à travers ce test très sensible, hein, on voit justement la forme du miroir. Et si on approche la main, on voit carrément des volutes
de chaleur.
Si on pose un doigt sur le miroir, on voit une bosse.
Ouais. On voit une bosse, c'est incroyable. La dilatation du verre qui est exagérée.
Alors peut-être une petite différence avec l'astronomie d'amateur aussi en ce qui concerne ces grands observatoires, c'est la façon dont vont être collectées, analysées les images. Il est très peu fréquent que l'on fasse de l'observation visuelle avec ces grands instruments. Donc ça signifie qu'au foyer de ces instruments, on va installer des instruments qui vont servir à faire différentes choses. Alors en premier lieu, on va penser évidemment aux capteurs électroniques, aux caméras, hein, qui vont pouvoir faire de l'imagerie dans différentes longueurs d'onde, dans différentes couleurs, de façon à tâcher de déterminer un petit peu les formes des objets observés, entre autres. Un autre sujet d'étude très actuellement,
ouais.
Je ne referai plus, promis.
Très en ce moment.
Très en ce moment, voilà. C'est d'installer sur ces grands télescopes ce qu'on appelle des spectroscopes. C'est toujours des instruments qui vont, là pour le coup, analyser la lumière émise par les corps célestes de façon à en déterminer la composition. Et on peut dire qu'actuellement, en ce qui concerne ces grands observatoires, plus de la moitié des instruments qui sont montés sur ces grands observatoires sont des spectroscopes, donc destinés à faire l'analyse chimique à distance.
Ce qu'il faut savoir également, je pense, c'est que ces dernières années, ces 50 dernières années, la majorité des grandes découvertes en astrophysique ont été faites au moyen de spectroscopes, au moyen de ces appareils qui décomposent la lumière.
Donnez une info en direct live, c'est-à-dire que Daniel Warling va nous pondre un exposé dans quelques émissions sur la spectroscopie.
Et me voilà, courant, mais, voilà, me voilà piégé. Plus, mais
c'est son petit bijou à lui, donc il aime ça. Donc,
oui, parce que
je lui annonce officiellement en direct, donc il est obligé de signer.
Ben voilà.
Qui va être obligé de dans quelques émissions, peut-être la prochaine ou celle d'après.
Ben je lui ferai ça parce que justement, c'est un bel exemple où une technique très indirecte nous amène à la connaissance de l'univers. Mais moi, j'ai une question à poser à Dominique aussi. Qu'est-ce qu'il y a alors comme grands observatoires? Donc, tu as cité Hawaï. Hein, avec ce qu'on appelle le CFH, le Canadien franco-hawaïen.
Oui, alors si on veut faire un tout petit peu l'historique, dans les deux minutes qui me restent à louer, on va commencer non pas par des télescopes, parce que les premiers gros instruments qui ont été installés étaient des lunettes, donc qui fonctionnaient avec des lentilles. Qui ont vite montré leurs limites, puisqu'il aurait fallu, pour avoir la performance des télescopes actuels, construire des lentilles gigantesques, chose que la technologie actuelle ne permet pas. Alors, malgré tout, il a été construit deux ou trois très grandes lunettes dans le monde, dont une qui se trouve à l'observatoire de Paris, de Meudon, avec un miroir de 80...
Un objectif, une lentille.
On fera aussi des exposés pour la différence entre les lunettes et les télescopes. Moins,
la plus grosse lunette qui a été construite dans un observatoire américain à Yerkes, avec une lentille de 102 cm. C'est la plus grande. Et on est rapidement passé ensuite à des instruments avec des miroirs, donc des télescopes.
Ou ce que les Anglais appellent des télescopes réflecteurs, par opposition aux lunettes qu'ils appellent, eux, des télescopes réfracteurs.
Et le premier digne de ce nom qui a été installé a été installé au Mont Wilson, donc ça se trouve en Californie, et là c'est un observatoire qui a vu successivement un télescope de 1,50 m, puis un télescope de 2,50 m qui existe toujours.
C'est d'ailleurs à cet observatoire que Hubble a fait la grande découverte de la fuite des galaxies.
Tout à fait.
Et Humason, oui.
Voilà. Et puis ensuite, un must parmi ces grands télescopes de l'immédiate après-guerre, ça a été le télescope du Mont Palomar, donc un télescope de 5 mètres que j'ai évoqué tout à l'heure à propos des miroirs alvéolaires. On a construit d'autres observatoires, d'autres types d'observatoires pour observer dans d'autres longueurs d'onde.
Alors, pardonne-moi, juste Dominique, un point. Comme on parlait de guerre froide tout à l'heure entre les Russes et les Américains, quand les Américains ont produit le Mont Palomar 5,02 m, alors le 0,2 m, c'est parce que ça, il compte encore comme au Moyen-Âge, là, en inch, en pouce. Et donc les Russes se sont empressés de faire plus grand. Donc ils ont construit Zelenchuk qui est
6 mètres.
Zelenchuk.
Avec l'accent.
Je me suis entraîné.
Alors Michel Marcelin, qu'on fera venir lors de nos conférences, vous parlera des conférences, il a été là-bas.
Ouais, je voulais évoquer, juste avant que Daniel me coupe la parole, un observatoire d'un autre type.
Non, Daniel passe une remarque fort intéressante.
Tout à fait, merci Daniel. Je voulais parler de l'observation dans le domaine radio, où là aussi ont été construits des observatoires gigantesques, notamment celui de Nancy, dans le Cher, en France, qui est constitué d'une antenne qui fait 300 mètres de long. Il y a eu dans
on va les visiter normalement le 7 et 8 octobre.
Oui, la Seine organise un petit voyage pour aller voir un petit peu
ce gros grillage à poule. C'est plein.
Faut pas le dire, oui, c'est plein. On ira, on retournera.
Il y en a deux ou trois autres qui ont été construits dans ce style-là aussi pour observer dans le domaine radio. Et puis, comme de bien entendu, dans toutes ces technologies, les Américains sont assez en pointe. Il y a notamment aux États-Unis, en Arizona, une montagne qui s'appelle Kitt Peak. Qui présente une petite collection d'une bonne vingtaine de télescopes, tous plus gros les uns que les autres, dont les premiers ont été mis en service en 73. Il y a également les Australiens qui ont mis en service en 75 le premier télescope entièrement informatisé. Et puis, derrière, Zelenchuk, Daniel vient de nous en parler, qui a été mis en service en 75, donc quand même un petit peu après celui de Palomar. Et puis enfin, il y a toute la collection des télescopes qui ont été montés au sommet du Mauna Kea à Hawaï, et tous ceux qui sont en cours d'installation en ce moment au Chili, et notamment la collection des VLT. VLT, ça signifie au total, quand le projet sera arrivé à son terme, 7 télescopes, 4 de 8 mètres et 3 de un peu moins de 2 mètres, qui vont être couplés, et là c'est quelque chose de très intéressant, ils vont être assemblés et montés sur un cercle qui fait environ 130 mètres de diamètre, et sans entrer dans le détail, on pourra avoir la résolution avec ces instruments d'un appareil qui ferait à peu près 130 mètres de diamètre. C'est-à-dire l'espoir peut-être de voir de visu des exoplanètes.
Pour l'instant, on ne fait que les détecter.
Ça, c'est une bonne conclusion.
Oui, merci Dominique. Tout de suite, la SAN laisse la place à un peu de musique. Normalement, nous aurions dû retrouver une nouvelle chronique appelée Un peu d'histoire qui aurait dû être aujourd'hui sur Kepler. Notre vice-président n'étant pas prêt pour cette chronique qu'il devait assurer aujourd'hui, nous allons passer directement au point suivant. La SAN à l'Observatoire de Château-Renard avec, entre autres, Régis Larcher et Dominique Ménel qui vont nous parler de ce que vous avez entendu il y a 2 semaines. Il y a des gens qui sont partis dans le froid à 3000 mètres pour regarder les étoiles.
Eh bien oui, donc après les grands observatoires, on va revenir un tout petit peu plus près de chez nous, et malgré tout, en ce qui concerne le monde des amateurs, on va quand même considérer que c'est un grand observatoire. Je voulais parler de l'observatoire Astroquera, qui est situé un petit peu au-dessus de Saint-Véran, donc un super petit village des Hautes-Alpes. Cet observatoire est accroché à 3000 mètres, dans les nuages, dans la neige.
Même. De 1990.
Ouais, faut pas exagérer, t'as raison, Régis.
La précision en astronomie.
La précision en astronomie. Et il se trouve que cet observatoire est équipé d'un télescope de 60 cm quand même, ce qui est déjà pas rien.
62 cm.
62 cm.
Oh là là, ça précise, toujours la précision.
Toujours la précision. Et cet observatoire, par le biais d'une association qui en assure la gestion, est mis à la disposition des amateurs qui souhaitent aller faire des programmes d'observation là-haut.
Voilà, c'est-à-dire qu'on a fait en fait une demande de temps de télescope comme des professionnels, comme sur des instruments professionnels. On a fait un petit dossier à la SAN, alors on s'est préparé au mois de février, je crois, on a commencé un petit peu à songer à ce qu'on pouvait faire là-bas avec cet instrument magnifique. Et puis petit à petit, on a mis nos idées en forme et on a envoyé ce petit dossier. On a eu la grande récompense d'être accepté, non pas une mais 2 missions sont partis là-bas, donc Dominique est parti.
Deux missions consécutives, tout voilà. À fait, ouais, fin août et début septembre. Mm-hmm.
La dernière qu'on a eu en direct, la dernière émission d'ailleurs.
Voilà, on a eu un direct live avec Alternante le lundi, là, qui était un grand moment de radio,
voilà.
Puisque c'était notre premier direct.
En téléphonique, quoi.
À travers la France. Et donc, on a eu la chance de profiter de cet instrument. Je pense peut-être que tu peux parler brièvement des objectifs que vous étiez fixés.
Alors, la première mission, celle qui est montée dans la dernière semaine d'août, s'était fixée 2 grands objectifs, on va dire. Premièrement, de faire de la photographie à partir de capteurs électroniques. On appelle ça des caméras CCD dans notre jargon. En fait, ce ne sont jamais que des appareils photo qu'on va qualifier de numériques, comme ceux qu'on trouve un petit peu dans le commerce. Avec une petite différence malgré tout, c'est que la sensibilité du capteur est bien plus élevée.
Elle est quelque chose. Le prix est bien plus cher.
Oui, le prix aussi est beaucoup plus élevé. Mais la sensibilité par rapport à un capteur électronique d'un appareil photo d'amateur, c'est entre 100 et 1000 fois plus. Donc ça va permettre de pouvoir photographier des objets très faibles dans le ciel. Et donc nous avons profité de cet instrument pour faire de superbes photos qui sont en cours de traitement actuellement, d'objets qu'on appelle des nébuleuses planétaires, hein, des étoiles qui sont arrivées, des étoiles de type Soleil, qui sont arrivées en fin de vie, qui ont commencé à éjecter leur matière avec profusion de couleurs. Le deuxième volet de cette mission a été de faire de la photométrie, c'est-à-dire mesurer l'intensité lumineuse sur des étoiles variables. Il existe dans le ciel des étoiles dont l'éclat varie pour de multiples raisons, et on peut s'ingénier avec des instruments tels celui-ci à mesurer ces variations d'éclat pour en définir des courbes et tâcher de voir un petit peu les raisons de ces variations d'éclat.
Alors justement, dans ce domaine, c'est un sujet qui est en fait tout à fait d'actualité pour les amateurs, puisque tous les professionnels ne peuvent pas consacrer du temps à l'observation de ces étoiles variables, il y en a tellement. Et donc là, l'amateur peut apporter une contribution, je pense qu'on en avait discuté un petit peu la semaine dernière,
oui.
Et peut apporter une contribution aux professionnels pour faire œuvre utile et je dirais faire aussi passer un petit peu la mission sur un tel instrument, quoi.
Oui, effectivement, il existe plusieurs associations qui s'occupent d'observation d'étoiles variables et qui sont en rapport à la fois avec les amateurs et les professionnels. Ces associations collectent les différentes informations, les relevés, les comptes rendus concernant ces étoiles variables et finissent par alimenter de gigantesques bases de données pour un petit peu cataloguer tous ces objets.
Bon, alors Véronique va nous présenter la suite.
Moi, je vais plus vous parler, je dirais, de la deuxième mission, parce que moi, je faisais partie de la deuxième mission. Nous, c'était pas les nébuleuses planétaires, c'était les galaxies. Donc, on a essayé de répertorier et de photographier, je dirais, par caméra électronique, les différentes structures de galaxies, les elliptiques, les spirales, des spirales barrées, des irrégulières, pour, je dirais, essayer de faire un petit panel...
Éventail, en français.
Et voilà, un petit éventail des différentes structures de galaxies. C'était un petit peu la continuité de ce qui avait été fait l'an dernier par l'équipe également, qui était monté à Château-Renard et qui avait fait des galaxies, mais en noir et blanc. Donc nous, on a décidé de faire ça, mais en couleur. Donc le but de faire de la couleur, c'est de mettre des filtres, je dirais, différents, donc trois filtres, le bleu, le vert et le rouge, entre la caméra et l'instrument, enfin, et le foyer, et de faire des images comme ça, en noir et blanc, mais qui représentent une couleur. Et après, on fait par traitement informatique, on superpose les trois images, plus une image en noir et blanc pour, je dirais, avoir le maximum de détails, pour obtenir après une image en couleur des diverses structures de galaxies.
Il faut quand même rappeler que les capteurs qu'utilisent les astronomes sont en noir et blanc.
Oui, les images, voilà, les images qu'on a sont sur l'écran sont forcément...
Donc quand vous mettez un filtre bleu, il y a toute la lumière bleue qui vient. Voilà. Et la lumière rouge après elle vient. Donc en fait, c'est du blanc, c'est des dégradés de gris en fait.
C'est ça.
Mais après, en fait, avec votre ordinateur, vous dites à l'ordinateur, tu me changes mes dégradés de gris en dégradés de bleu.
Voilà, telle photo sera bleue.
Voilà. Et après, vous rajoutez le rouge et le vert et ça vous fait une image composite en plusieurs couleurs.
Oui, parce qu'il faut, ajouter également que ces capteurs ne fonctionnent qu'à partir du moment où ils sont reliés à un ordinateur. Donc on a besoin de beaucoup d'informatique pour utiliser tous ces outils.
Autrement, vous nous parlez de quoi après la vie de là-bas, de ce que vous faites?
Bah, je pense que on aura peut-être l'occasion de développer la partie plus technique lorsqu'on aura nos données.
Voilà,
données, lorsqu'on aura
je pense qu'on fera pas d'exposé voilà. sur les
mais
les
je données. Pense que ce qui est encore bien frais dans nos têtes, c'est la partie sensation, ce qu'on a vécu voilà. là-bas. Je vois Dominique qui sourit parce que je me rappelle très bien son sourire quand on est monté les rejoindre là-haut. C'était vraiment un accueil chaleureux. On sentait.
Il faut savoir que vous êtes à 3000 mètres, oui. à quelques mètres près. Avec un ciel assez pur.
Oui, on est effectivement à 3000 mètres dans une zone qui est exempte de grandes agglomérations. La plus proche est Turin, qui doit être à 50 ou 70 km à voile d'oiseau, quelque chose comme ça. On est à la frontière italienne. Et bien la première réflexion qu'on peut se faire lorsqu'on regarde le ciel nocturne à ces altitudes-là et avec cette qualité d'atmosphère et de ciel là-bas, c'est on sait plus où on est. On a un petit peu de mal à se repérer par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir ici en plaine. Et notamment, il m'a été rapporté une réflexion concernant la Voie lactée. Quelqu'un a dit en arrivant là-bas, mais c'est un nuage qui traverse le ciel. Mais non, c'était pas un nuage, il n'y avait pas un nuage dans le ciel. C'était la Voie lactée.
Moi, je peux citer, c'était Régis.
Non, c'était Jason.
Non, c'était pas mal non plus.
Il n'est pas là, alors je peux dire que c'est lui.
Il faut expliquer un peu que paradoxalement, on peut dire que la pollution lumineuse, c'est-à-dire la luminosité des grandes villes, le seul avantage que ça, en fait, c'est ça, vu que le ciel est moins pur et moins noir, ça masque toutes les étoiles faibles. Donc on se retrouve avec que des étoiles un peu plus importantes, plus puissantes. Donc pour se repérer dans le ciel, c'est un peu plus simple. Si vous allez à Paris, par contre, c'est très simple. Il y en a 5, entre guillemets, donc c'est encore plus simple. Mais c'est vrai qu'après, quand vous partez, si vous n'allez jamais au ski, vous restez un soir un peu plus tard et vous regardez les étoiles, vous verrez qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus que ce que vous pourrez voir en pleine.
C'est ce que précisait tout à l'heure Dominique à propos des observatoires qui sont situés toujours en altitude pour diminuer l'épaisseur de l'atmosphère traversée par la lumière. Quoi. Et c'est vrai que cette Voie lactée là-haut est pratiquement deux fois plus large que ce qu'on peut voir ici en campagne. Dans les meilleures nuits.
On comprend pourquoi on l'appelle la Voie lactée.
On a une richesse de détails, on voit des millions d'étoiles, et on est un petit peu effectivement perdu, on sait plus trop où sont nos constellations. Petite anecdote pour les gens qui connaissent un petit peu la Voie lactée, on a pu observer la galaxie M33, donc dans la constellation du Triangle, à l'œil nu, alors que c'est un objet qui nécessite quand même une paire de jumelles pour être visible, j'allais dire, sous nos latitudes.
Oh, mais sans aller si loin dans les objets compliqués, il suffit de faire la comparaison avec la galaxie d'Andromède, qui est aussi une galaxie qui est bien visible à l'œil nu dans nos ciels de campagne en pleine. L'instrument idéal restant la paire de jumelles pour regarder cette galaxie, ben quand on regarde Andromède dans la campagne nantaise avec une paire de jumelles, on voit vaguement une petite tache un peu plus lumineuse dans le centre du champ. Et bien quand on prend la même paire de jumelles à 3000 mètres d'altitude au pic de Château-Renard, bien cette galaxie d'Andromède, elle remplit totalement le champ de la jumelle, elle va d'un bout à l'autre. C'est quand même quelque chose d'assez fabuleux et on aperçoit bien les différences, les dégradés de luminosité dans cette galaxie uniquement avec une simple paire de jumelles.
Alors est-ce que vous allez nous parler un peu de la vie de tous les jours? Parce qu'il faut savoir, en fait, vous êtes quasiment dans une base arctique. Ça ressemblerait un peu à ce qu'on voit à la télé quand on voit Cousteau passer à côté.
Ce sont les mêmes bâtiments, voilà. Ils ont la même allure. Voilà. Et c'est vrai que le dépaysement joue le cadre joue dans notre dépaysement.
Vous êtes autonome là-bas, vous n'avez pas des...
On est coupé du monde. Hein. L'énergie est fournie par des capteurs solaires, le chauffage par des bouteilles de gaz, en fait. C'est vrai que c'est vraiment... on est obligé de monter l'eau potable que l'on va consommer là-bas, ce qui d'ailleurs nous donne droit à quelques péripéties sur la piste, puisque pour l'anecdote, on avait emmené une remorque, c'était... assez épique comme montée, parce qu'il y a donc une piste, il y a 1000 mètres de dénivelé entre le village dont parlait Dominique tout à l'heure, le village de Saint-Véran, et l'observatoire. 1000 mètres, évidemment, on ne les fait pas en ligne droite, c'est une piste qui serpente à travers la montagne et la rocaille, et c'est assez folklorique.
Et je rappellerai à ce sujet que Saint-Véran est la commune la plus élevée d'Europe. Elle est à quelque chose comme 2000 mètres d'altitude déjà. Donc il faut déjà accéder à Saint-Véran en passant le col de l'Isoar qui est à 2400 mètres. C'est un voyage qui ressemble un petit peu à un périple quand même.
C'est un voyage assez long en fait. Oui. Ouais. C'est souhaitable de le faire en deux fois déjà parce que ça fatigue. Mais le cadre vraiment en vaut la peine, quoi. C'est plus que des vacances. On aime tous monter, je pense, hein, pour faire de l'astronomie avec un gros télescope, et on garde un souvenir de quelque chose d'assez merveilleux.
Aussi, vous observez la nuit, ce qui paraît logique. Donc vous vous levez tard le matin ou plutôt tôt l'après-midi, l'observatoire. Vous montez vos 1000 mètres.
Si la balade vous tente, moi je vous engage à y monter tôt le matin, juste avant le lever du soleil, pour assister à un spectacle qu'on ne peut pas voir dans des conditions ou dans d'autres conditions par ailleurs. Je veux parler du rayon bleu-vert au moment où le soleil émerge derrière les montagnes qui sont juste derrière l'observatoire. Ça, c'est un moment fabuleux. Personnellement, j'ai vu le rayon bleu, mais le rayon bleu d'un bleu éclatant, ça dure une fraction de seconde, mais ça marque une vie.
On peut même en voir plusieurs. Hein.
Si on se débrouille,
bien, sans se casser la figure dans la pirail, on peut en voir plusieurs.
Parce que Régis évoque en fait la possibilité de le voir à plusieurs reprises. Alors pour voir le rayon bleu vert à plusieurs reprises, il suffit de commencer à le voir en grimpant tout à fait au sommet du pic au moment où le soleil émerge, et puis ensuite de courir en descendant de façon à se retrouver à nouveau dans l'ombre de la montagne et de voir à nouveau le soleil émerger, et puis on peut le faire plusieurs fois de suite comme ça, et si on se débrouille bien, on arrive à faire durer la manip pendant 10 bonnes minutes comme ça, donc ça laisse la possibilité de voir ce rayon bleu vert plusieurs fois dans la même matinée.
Et ceux qui se la goulent plusieurs fois c'est la même matinée.
Il n'y en a pas beaucoup qui sont tombés quand même.
Savoir que ça se passe à la fin de notre nuit d'observation. Donc voilà. On est tous un petit peu fatigués, en fait, on est impatients d'aller se coucher, mais on ne veut pas louper ça.
Donc vos horaires de repas un peu, juste pour faire...
Je dirais que la vie est complètement décalée, on se lève, il est 14h, donc on prend le petit déjeuner dehors, si on a la chance d'avoir, je dirais, du soleil et un peu de chaleur, parce qu'à 3000, il fait un petit peu frisqué quand même. Donc 14h, je dirais que c'est le petit déjeuner, 14-15h. Après, l'après-midi, on a diverses activités, on prépare la nuit, on va voir les marmottes, on va profiter du paysage. Et on commence, je dirais, à manger notre repas du midi, normalement, sur les coups de 18h, 19h. Avant d'entamer, je dirais, la nuit d'observation. Donc là, après, on attaque la nuit d'observation. Et le dîner, on le fait sur les coups de minuit, 1h du matin, voire 2h du matin. Ça dépend des nuits, ça dépend de la préparation, mais en général, on mange bien, on en profite, on passe un petit peu de temps dans la cuisine, c'est sympa, ça soude un peu tout le monde, et puis on en profite après parce que les papilles apprécient également de manger à 3000 mètres.
C'est important pour le moral, pour le moral, j'irais, et pour le physique, parce qu'il faut supporter le froid, la fatigue, et c'est vrai que, comme tu disais, ça soude autour d'une table, même quand il fait pas très très beau, on peut se retrouver, passer un moment agréable et faire connaissance avec les gens qu'on a l'habitude de côtoyer dans un cadre totalement différent lorsqu'on se rencontre à l'association.
Oui, c'est d'autant plus vrai que plus les nuits sont belles, ça veut dire que le ciel est dégagé, plus les nuits sont belles, plus il fait froid. Donc on a intérêt à accumuler un tout petit peu de calories avant d'attaquer la nuit.
Ensuite.
Alors on a eu également une expérience assez enrichissante puisqu'on a été, on a reçu la visite de France 3 qui est venu un petit peu faire un reportage sur la montagne et par le biais sur les relations entre la montagne et l'astronomie. Donc ils ont pu voir un petit peu notre vie de tous les jours. Hein. Ça donne quelques anecdotes pendant les séances de prise de vue. C'était une expérience assez forte. Hein. Le direct avec Alternante plus France 3, ça en fait des choses dans la même semaine.
C'est vrai.
On a pu aussi, je dirais, leur faire découvrir un petit peu ce que c'était que de regarder même la Lune au télescope. Je me souviens la réflexion des A, I, O de la journaliste qui, je dirais, n'avait jamais pensé voir des choses pareilles. Ils l'ont filmé en direct et ça leur a vraiment bien plu. On a eu la chance aussi, je dirais, cette semaine d'avoir à nos côtés deux professionnels de Besançon qui étaient là pour des mesures d'atmosphère et qui ont passé donc 2-3 jours avec nous. On a pu discuter, ils nous ont un peu transmis ce que eux faisaient, et puis on a pu également leur montrer un petit peu ce que nous on faisait dans le domaine amateur. On a eu, je dirais, des très bons rapports de ce côté-là. On est invité à les voir à Besançon si on passe par là, et on les a invités à Nantes dès qu'ils passent également dans le coin.
Normalement, il y aura quelqu'un de Besançon qui devrait venir à la prochain cycle de conférences, c'est François Saguerre qui devrait nous parler de la saga des calendriers.
Nous avons déjà reçu François Swager il y a 2 ans, qui est venu nous présenter une superbe conférence sur les phénomènes lumineux célestes. C'était une petite aparté pour présenter cette conférence. Je ne regardais pas la date. Et parmi les observations qui ont été faites, on a parlé du rayon bleu-vert tout à l'heure, on a parlé de l'observation de différents objets, des galaxies, des nébuleuses planétaires, des étoiles variables. Et bien imaginez qu'on a même regardé les planètes, on les a même regardées à l'œil nu, et je vous garantis que voir Jupiter qui fait 5 cm de diamètre, c'est quand même quelque chose. Et ces planètes, un petit peu comme la cerise sur le gâteau, on les a même observées en plein jour, pour vous dire la qualité du ciel là-bas.
Saturne aussi est magnifique dans un instrument pareil. On travaille avec un grossissement de l'ordre de 650 fois, ce qui est assez extraordinaire pour un télescope d'amateur moyen. Donc là, c'est plus du tout un télescope d'amateur. On a le site qui s'y prête et on voit très très bien des détails, même à l'intérieur des anneaux. On voit des détails dans l'atmosphère de Jupiter, pas des fins détails, mais on voit quand même des bandes nuageuses, on voit l'assombrissement des pôles, des choses qu'on n'a même pas l'habitude de deviner avec nos modestes instruments ici. Donc c'est vrai que parallèlement au côté purement technique et très un petit peu rigide, si vous voulez, du programme qu'on s'était fixé sur les galaxies ou les nébuleuses planétaires ou la mesure des étoiles variables, on s'est quand même offert une nuit de plaisir en démontant tout le bazar et en mettant un oculaire pour regarder vraiment comme si c'était un télescope d'amateur. Et là, c'est vraiment quelque chose que tout le monde a vécu intensément.
Il faut savoir aussi qu'un peu que c'est pas un télescope d'amateur, hein, c'est-à-dire que ça fait 62 cm, ça fait une taille en nombre de mètres de distance, combien ?
9 mètres de focale.
Donc c'est un truc de fou.
9 mètres, c'est la focale, hein. C'est pas la dimension du tube. Le tube est un petit peu plus court.
Heureusement. Mais c'est vrai que ça ressemble à un observatoire, c'est-à-dire qu'il y a une coupole,